ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 17 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour la dernière de Ça vaut le détour cette semaine. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux en utilisant le mot-clé Ça vaut le détour, CVLD, ou @canal barre de soulignement M sur Twitter. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Jusqu'au 19 février, on souligne partout au Québec les journées de la persévérance scolaire. Parce que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous et que chaque jeune a besoin d'encouragement quotidien, il faut sensibiliser la population aux troubles d'apprentissage. C'est 800 000 personnes au Québec qui vivent avec un trouble de dyslexie ou de dysorthographie, mon Dieu. Je suis peut-être en train de me découvrir un diagnostic ce matin. La dysorthographie et la dyslexie qui sont la difficulté de lire les mots ou de les écrire. On en parle avec Madeleine Fauteux, orthopédagogue, spécialiste en technologie de l'information et personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage. Chronique juridique aujourd'hui, on s'intéresse aux obligations de l'employeur lorsqu'un employé développe une limitation fonctionnelle ou devient handicapé suite à un accident, même si ce dernier survient en dehors du milieu de travail. Maître Soudi Bakary, consultant chez Desroches-Mongeon Avocats, nous parle plus en détail du processus d'accommodement. On reçoit aussi Pierrette Gagné, directrice du Centre de référencement du Grand Montréal, pour leur première chronique mensuelle à Canal M. Le Centre de référencement du Grand Montréal est un organisme à but non lucratif, autonome et bilingue qui donne gratuitement de l'information sur les ressources sociales et communautaires de la région. Elle sera avec nous à 12h45. En octobre 2015, la Ville de Montréal a adopté son plan d'accessibilité universelle 2015-2018. 19 arrondissements et 16 services centraux y prennent part. L'arrondissement Saint-Léonard a décidé de se doter de son propre plan d'action local en accessibilité universelle 2016-2018, fruit d'un exercice de consultation et de réflexion mené tant auprès des employés que des partenaires de l'arrondissement. C'est le premier plan du genre à Montréal. Pour nous en parler davantage, on joint au téléphone Lily-Anne Tremblay, conseillère d'arrondissement à Saint-Léonard-Est, présidente de la Commission permanente des loisirs, des sports, des affaires culturelles et du développement social. Bonjour, Madame Tremblay.
Bonjour, Madame Pomerleau. Bon midi à tous vos auditeurs et merci pour votre invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi.
Bien, merci beaucoup d'abord de démontrer cette proactivité-là. Donc, vous avez choisi de vous doter de votre propre plan d'action pour aller au-delà de ce qui était déjà annoncé par la Ville de Montréal.
Écoutez, à Saint-Léonard, l'accessibilité universelle est une préoccupation constante. On s'est engagé dans la voie de l'accessibilité universelle car, en premier lieu, en 2009, nous avons fait notre plan MADA, Montréal Amis des aînés, donc c'est une continuité à notre plan MADA. Et notre plan d'accessibilité universelle, il précise nos stratégies mises de l'avant afin de rendre accessibles universellement les services et nos installations. Il est donc bâti là, spécifiquement selon les champs de compétences dans lesquels peut intervenir notre arrondissement. Avec l'élaboration de notre plan, Saint-Léonard, on s'est fixé des objectifs précis, mesurable, applicable directement à notre réalité.
Et justement, Vous parliez déjà de ce plan d'action municipalité Amis des aînés. Faut le dire, il y a 25 % de la population de l'arrondissement qui sont des aînés, qui sont des personnes âgées. Et donc, c'est une préoccupation d'assurer le vieillissement actif de cette population-là.
Effectivement. Vous savez, étant également l'élu qui a été responsable de la mise en œuvre du plan de Montréal et de notre plan d'action MADA, tant pour la ville-centre que pour l'arrondissement, là, c'est pour moi une suite logique de notre plan d'accessibilité universelle, parce qu'effectivement, les personnes âgées de 55 ans et plus forment un tiers des citoyens de Saint-Léonard. Donc, notre public cible est les gens du troisième âge. Cependant, ça va au-delà des aînés, car l'accessibilité universelle tient compte de tous les types de clientèle. En établissement, okay, le portrait de notre population, nous avons constaté que l'arrondissement compte l'une des plus fortes augmentations de familles avec enfants à Montréal. Cela fait beaucoup de parents avec des poussettes. Et on a aussi le fait que si on a plus d'enfants avec les poussettes, on a beaucoup de garderies aussi à Saint-Léonard. Donc maintenant, vous savez, tous nos petits boutchous qui ont à venir dans nos parcs, qui ont à utiliser les services de bibliothèque, c'est beaucoup plus facile quand ils sont à la queue leu-leu de pouvoir utiliser l'accessibilité universelle. Et nous avons aussi constaté qu'autour de 20, écoutez, à quelques personnes près, là, à peu près 22 000 personnes vivent dans l'arrondissement avec une incapacité de tout type confondu. Puis ça représente à peu près comme une personne sur trois chez nous. Donc voilà pourquoi c'est si important.
C'est effectivement, ce sont des chiffres importants. Qui avez-vous consulté pour mettre sur pied ce plan?
OK. Pour nous, il a été très important d'impliquer tous les acteurs du milieu. Nous avons donc mis en place deux différents comités. Un premier comité, interdivision, qui réunit un représentant de chacune de nos unités administratives impliquées dans le projet de l'accessibilité universelle, et nous avons le 8 divisions à l'arrondissement. Et un autre comité local, qui est composé de représentants de citoyens, d'aînés, d'organismes locaux et pan-montréalais, regroupements de services, institutions paramunicipales, ainsi que sûrement des fonctionnaires, arrondissement et de la ville-centre, un élu, certains. Puis ce comité a joué un rôle majeur dans l'élaboration de notre plan. Il continuera aussi à avoir un rôle pour sa mise en œuvre. Les gens composant notre comité sont sur le terrain. Ils nous permettent d'identifier des problématiques et ils font de nombreuses recommandations. C'est un processus qui est continu. Et nous croyons que cette façon de faire a été bénéfique pour arriver à des actions concrètes, des actions qui vont être réalistes, adapté aux besoins de notre milieu. Et encore hier, je participais à Accessibilité universelle 360. C'est toute une journée qui est coordonnée et organisée par Altergo. C'est une rencontre annuelle où tous les acteurs ont le même engagement, soit de faire de Montréal une ville accessible à tous. Il y a eu des échanges importants. Et quand je vous dis là que les acteurs, tous les acteurs y étaient, autant le comité exécutif, les membres du comité exécutif, des partenaires, des associations, Ça a été une journée très enrichissante.
Madame Tremblay, on voit que le plan est vraiment le résultat d'une démarche de concertation. Est-ce qu'il y a des balises précises que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a des échéanciers déjà mis en place? Est-ce qu'on vise quelque chose pour 2016, 2017, 2018?
Oui, effectivement. Si vous allez, j'invite les auditeurs à aller sur notre site Internet. Notre plan d'accessibilité universelle est sur notre site Internet.
On va aussi mettre le lien sur notre page d'émission.
Ben, merci beaucoup. Notre plan a été construit sur un tableau de bord. C'est le même système qu'un tableau de bord. Ça fait que notre plan d'action est divisé en fonction de nos 8 unités administratives dans l'arrondissement. Pour chacune des unités, des actions précises, incluant un échéancier de réalisation, ont été définies. Notre plan permet donc, on observe par un tableau de bord une vision d'ensemble qui est cohérente des actions futures de notre arrondissement. Donc, on est capable de voir l'action, on est capable de voir les responsables et les collaborateurs. Mm-hmm. Et on est capable de voir la période de réalisation.
Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des exemples de projets à court terme sur lesquels vous travaillez déjà?
Oui. Nous sommes présentement à rendre tous nos pavillons. Vous savez, Saint-Léonard, on a 9 grands parcs avec des pavillons qui sont habitables où les clubs de l'argent font des activités. Donc, on est à rendre tous les pavillons, nos parcs accessibles, aménager les circuits d'entraînement pour les personnes âgées dont les parcs ne sont pas présentement dotés parce qu'on en a 4 qui le sont déjà. Mm-hmm. Aménager les stationnements de façon à rapprocher les débarcadères ou les places de stationnement pour l'accessibilité universelle, soit au parc Pidos puis à Giuseppe Garibaldi. À rendre accessible universellement la piscine extérieure au parc Pidos. Et je tiens à mentionner qu'on a déjà, par contre, fait beaucoup de réalisations à Saint-Léonard. Et une de nos belles réalisations qu'on a fait, c'est que nous avons réalisé une nouvelle aire de jeu pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une limitation fonctionnel au parc Ferland. Et sachez que ce parc-là est une demande du milieu, mm-hmm. avec le comité que nous avons créé de milieu et de partenaires. Ce parc-là pour les cet art de jeu-là pour les autistes est vraiment bien utilisé. Pourquoi? Parce que le parc, c'était l'une des demandes. On a utilisé un expert pour concevoir le parc et il est clôturé. Et savez-vous qu'est-ce qui est agréable? On a pu ce parc-là, faire de jeu-là pour les autistes, mais les gens du troisième âge, quand ils me rencontrent, ils me disent, Lélie, c'est merveilleux d'avoir fait un bel art de jeu comme ça, parce que moi, je suis grand-papa et je n'allais plus au parc parce que quand mon petit-fils partait, je n'étais plus capable de le rattraper. Là, le fait qu'il est clôturé, on peut tous s'amuser et on est moins isolés chez nous.
Tout à fait. Et c'est aussi profitable pour les autres enfants et toutes les familles de l'arrondissement.
Oui.
Donc, Madame Liliane Tremblay, vous êtes conseillère d'arrondissement à Saint-Léonard-Est, présidente de la Commission permanente des loisirs, des sports, des affaires culturelles et du développement social. Merci beaucoup de nous avoir parlé plus en détail de votre plan local d'action en accessibilité universelle de l'arrondissement de Saint-Léonard. Merci.
Encore merci pour votre invitation et bonne journée à tous.
Tête reposée, les paupières trop lourdes qui veulent se fermer, comme un rendez-vous. Ce matin, chaque nuit, de l'autre côté de la vie, on se retrouve à nouveau. en ses rêves éphémères où on est libre de tout faire. Ce n'est que du temps qui garde toujours le rythme. Le matin viendra vite. Ma vie somnambule. Ma vie somnambule. Regretter le sang, je m'en vouloir un peu. Mes rêves m'exaspèrent. Être de lumière, tu n'existes que dans ma tête. Tu n'es qu'un ombre. D'une nuit à l'autre, ta présence vagabonde, impossible à cerner. Sans même te connaître, je ne peux que t'aimer. Ma vie somnambule. Ma vie somnambule. Existence parallèle. Je ne distingue plus le jour de la nuit. Quelle est ma vraie vie? Je rêve de réalité, je vis endormie, éveillée. Serais-tu comme moi? Un marcheur endormi qui n'existe que la nuit. Me cherches-tu, dis-moi? Également convaincu que la vie se passe les yeux fermés. Ma vie somnambule. Ma vie somnambule.
Somnambule tiré du mini-album de Amélie P. Bédard. Une belle découverte ce matin. On continue, ça vaut le détour. Aujourd'hui, on se penche sur les obligations de l'employeur lorsqu'un employé développe une limitation fonctionnelle ou devient handicapé suite à un accident. Ça peut parfois être un casse-tête juridique si on se trouve dans cette situation. Donc, on a avec nous en studio Maître Soudi Bakary, consultant chez Desroches-Mongeon Avocats. Il va nous en dire davantage. Bonjour, M. Bakary.
Bonjour, Mme Popello.
Bienvenue dans nos studios. Tout d'abord, qu'est-ce que l'obligation d'accommodement est, envers l'employeur et comment s'applique-t-il?
OK. Mais il s'agit d'abord d'une obligation pour un employeur de tenir compte des individus et de leurs différences dans les conditions d'accession à l'emploi. Et l'obligation d'accommodement doit toujours s'évaluer dans un contexte au cas par cas. Elle dépend de la personne à accommoder, du motif de la distinction et puis aussi de l'entreprise, etc. Ce qui est clair, c'est que l'accommodement doit être raisonnable, c'est-à-dire sans contrainte excessive pour l'employeur.
Mmh, donc, tout ce qui ne représente pas une contrainte excessive est considéré comme un accommodement raisonnable.
Un accommodement raisonnable pour l'employeur.
Et c'est donc prévu par une loi? Il y a un cadre juridique qui entoure ça? Est-ce que c'est la Charte des droits et libertés à ce moment-là?
Oui, et c'est il n'y a pas une source législative comme ça qui parle de l'obligation d'accommodement. C'est pas inscrit dans une loi quelconque. C'est plus un développement jurisprudentiel, c'est-à-dire les décisions qui ont été rendues par les tribunaux au fil des temps, mm-hmm. qui en sont arrivées à définir c'est quoi un accommodement raisonnable. Alors, il s'agit d'une création jurisprudentielle, c'est ce que je voulais dire. Mais il n'y a ni la charte québécoise ni la charte canadienne le prévoit explicitement.
Explicitement, mais donc, puisqu'il prévoit des clauses de non-discrimination par rapport à une situation d'handicap, c'est là où est-ce qu'on peut...
C'est là où on peut, c'est ça, c'est sur la base de l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés qu'on a développé cette notion autour de ces différents exemples ou des différents cas d'handicap ou de discrimination qui sont cités dans la Charte.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une procédure spécifique lorsque le handicap a pour source un accident de travail sur le lieu de travail?
Non, c'est la même chose parce qu'il faut déjà définir c'est quoi d'abord un handicap. C'est ça. La situation d'handicap, c'est une personne qui comporte, c'est-à-dire qui a des situations, qui est dans une des situations qui est citée par la charte. Mm-hmm. Ça veut dire que la situation d'handicap, ça peut être un accident de travail, c'est des limitations fonctionnelles. L'handicap peut être mental ou physique, c'est des limitations fonctionnelles. Et puis, c'est dans ce contexte toujours qu'on essaye de l'employeur essaye d'adapter l'employé sans contrainte excessive pour l'employeur.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'accommodement?
Les exemples les plus souvent cités, c'est-à-dire qu'on essaie d'adapter l'horaire de la personne en situation de handicap ou bien encore qu'on essaie d'adapter ses tâches sur le poste qu'il accomplit. Souvent, ce qu'on essaie d'éviter en même temps, c'est de ne pas trop transférer la charge du travail qui sont comme un peu excessives à d'autres employés. Alors, c'est pour justifier les situations d'égalité entre employés aussi en même temps.
Mm-hmm. On parle dans cette situation d'accommodement que l'employeur doit rechercher des solutions acceptables. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Les solutions acceptables, c'est une question quand même un peu difficile à répondre, parce qu'on vient de le dire, c'est au cas par cas.
Mm-hmm.
En fait, c'est-à-dire que si quelqu'un souffre, par exemple, d'un handicap qui est lié beaucoup plus à des handicaps psychologiques, ce qu'on va essayer de faire, qu'on va essayer de l'adapter, c'est-à-dire que les horaires de travail peuvent varier, il peut rentrer comme un peu plus tard par rapport aux autres employés. Tout ça, c'est des cas concret d'adaptation qui peuvent exister, même aussi par rapport à la tâche. Parfois, quand la tâche est très lourde pour être réalisée par la personne en situation d'handicap, on essaye comme de transférer les tâches qu'il ne peut pas faire à un autre à salarié qui peut l'accomplir pour que le poste soit, que la personne en situation d'handicap soit capable d'accomplir les tâches qui sont
conserver son poste dans la mesure du possible. Est-ce que les solutions qui sont amenées impliquent obligatoirement que l'employé va conserver le même salaire ou est-ce que ça peut entrer en ligne de compte?
Ça, on vient justement de le dire en fait, c'est parce que parfois on peut adapter, c'est-à-dire que l'employé, c'est-à-dire qu'on diminue ses heures de travail pour que on puisse l'accommoder à son handicap.
Mm-hmm.
Donc s'il y a des situations par exemple de diminution des heures de travail, Il va de soi que le salaire va être corrigé en fonction de cette situation.
Est-ce que ça peut arriver qu'on propose un emploi différent au sein de la même entreprise et à ce moment-là, peut-être une échelle salariale qui serait différente?
Oui, c'est des situations qui arrivent aussi souvent, mais ce qu'il faut aussi comprendre et puis qu'il faut aussi dire, c'est la situation même de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire que s'il y a des unités, comme par exemple, on parle des unités d'accréditation, c'est-à-dire que si c'est des secteurs différents, il peut arriver qu'on déplace la personne dans un autre secteur, c'est-à-dire dans une autre unité d'accréditation,
mm-hmm.
où elle pourra effectivement répondre aux exigences du poste.
Est-ce qu'on parle justement d'accommodement, on parle aussi de contrainte excessive. Qu'est-ce que ça représente concrètement, une contrainte excessive?
Une contrainte excessive, c'est des situations qui mettent l'employeur dans une situation qui est qui va entraîner des coûts, par exemple, je veux dire, à l'employeur. C'est par exemple, les coûts sont très élevés pour adapter le poste à la personne en situation d'handicap. On peut considérer ça comme une contrainte excessive pour l'employeur.
Mm-hmm.
Et aussi, si jamais ça alourdit le fonctionnement de l'entreprise au complet. Donc, ça peut être jugé ou considéré comme une contrainte excessive pour l'employeur.
OK. Et à ce moment-là, quels sont vers quoi est-ce que l'employé va se diriger ou vers l'employeur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à déterminer rapidement, ces contraintes excessives-là?
Oui, souvent, c'est des situations qu'on... En tout cas, la première chose à faire pour une personne en situation d'handicap, c'est déjà signaler son handicap d'abord à l'employeur et au syndicat, s'il y a un syndicat. Et puis dire les motifs pour lesquels. Donc, l'obligation va revenir maintenant à l'employeur d'essayer de répondre à cette situation d'handicap. Mais si la situation, si la contrainte est excessive, souvent l'employeur va vous le dire aussitôt que ça m'entraîne des coûts très énormes ou ça alourdit le fonctionnement de l'entreprise et il nous est très difficile de répondre à ces motifs d'handicap. Alors, dans ce cas, la personne qui est dans cette situation, ce cas-là, souvent, c'est, on essaye d'adapter encore, de chercher des solutions qui sont beaucoup plus... C'est-à-dire de trouver de toutes les façons une position ou bien une tâche qui est vraiment adaptée à la situation de la personne en état d'handicap.
Donc vraiment, on essaie le plus possible
de rallier les deux parties. C'est ça.
En terminant, il nous reste quelques minutes. Si un employeur refuse de cette demande d'accommodement ou de tout compromis, est-ce qu'il y a des recours?
Oui, il existe des recours, mais souvent, ce qu'il faut éviter dans ces situations, c'est des recours judiciaires là, qui entraînent de longs débats et puis assez coûteux. Mais ce qu'on recommande le plus dans cette situation, c'est d'aller vers une médiation, de chercher la personne en situation d'handicap. Si elle a un syndicat, elle peut déposer un grief et puis aller à un arbitrage ou bien à un pré-arbitrage, ce qu'on appelle une médiation pour voir quel est le poste qu'on peut adapter en fonction de l'entreprise à la personne. Mais si la personne n'est pas syndiquée ou il n'y a pas un syndicat dans cette situation, je pense que la meilleure solution, c'est de déposer une plainte à la commission des droits de la personne fondée sur la charte avec avec les différents cas de discrimination qui sont cités à l'article 10 de la charte. Et puis, même à la commission des droits de la personne, d'habitude, il y a une médiation qui s'est faite avant.
C'est ça. Est-ce qu'on peut aussi s'adresser aux normes du travail ou d'autres instances qui peuvent peut-être nous guider?
Pour les situations d'handicap, je conseillerais beaucoup plus d'aller d'abord vers la commission des droits de la personne. Souvent, il y a une enquête qui est ouverte. Si on juge que la situation est vraiment accommodée, on va recommander à l'employeur et aux salariés de s'ajuster à la situation.
Superbe. Merci beaucoup pour ces précisions. Maître Soudi Bakary, vous êtes consultant chez Desroches-Mongeon Avocats. Et donc, on discutait de cette obligation d'accommodement de l'employeur envers un employé avec une situation de handicap. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci de nous avoir invités.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleaux.
On parlait en début d'émission les troubles d'apprentissage qui touchent notamment l'écriture, la lecture, les communications, les mathématiques et les habiletés motrices. C'est 10 à 15 % de la population québécoise qui est aux prises avec un trouble d'apprentissage, dont les plus communs sont la dyslexie et la dysorthographie. J'avais un peu de mal à le prononcer en introduction. C'est un mot qu'on voit peu. On voit surtout la dyslexie. Donc aujourd'hui, en plus dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, on s'attarde à justement ces troubles d'apprentissage qui peuvent être considérés comme un handicap invisible. C'est la première chronique de l'Institut des troubles d'apprentissage et mon invité est Madeleine Fauteux, orthopédagogue, spécialiste en technologie de l'information et personne ressource à l'Institut. Bonjour Madame Fauteux.
Bonjour.
Et on va commencer par présenter brièvement l'Institut.
Alors, l'Institut des troubles d'apprentissage, anciennement, nous étions l'Association québécoise des troubles d'apprentissage, qui a pour vocation, justement, l'aide aux personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage. On a plusieurs volets, notamment un volet des personnes ressources, une personne ressource au niveau des recherches, de la recherche, ce qui se fait de... disons, le mieux au niveau des recherches universitaires et tout ça. On a des personnes, une personne ressource pour les gens qui sont dans le milieu du travail. D'autres vont s'occuper davantage des jeunes au niveau de la vie scolaire. Et moi, ma tâche est d'ordre un peu plus spécifique. Ce sont les aides technologiques qui sont au secours des troubles d'apprentissage.
D'abord, avant de parler des aides technologiques, on va parler, on va définir qu'est-ce que le trouble d'apprentissage.
Alors, les troubles d'apprentissage, hein, sont des troubles qui sont d'origine neurologique. Ils ne sont pas attribuables à des problèmes d'audition ou des problèmes de vision. Mm-hmm. Ils sont, par exemple, ils ne sont pas attribuables non plus à des facteurs socio-économiques et surtout, mais surtout pas, à un manque de motivation. Alors, les personnes qui vivent, parce que je ne veux pas dire les personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage, parce que ce n'est pas une maladie. Mm-hmm. On vit avec un trouble d'apprentissage. Alors, ce sont des gens qui ont une intelligence normale et souvent supérieure à la normale. Alors, ce sont des gens qui apprennent différemment. Alors, les troubles d'apprentissage, ça dure la vie entière. Finalement, si on veut résumer de façon succincte, les troubles d'apprentissage, ils sont persistants, ils sont permanents, premièrement. Comme je le disais tantôt, ils ne sont pas liés à l'intelligence. Mm-hmm. Ils sont d'origine neurologique, mais ils peuvent aussi coexister avec d'autres conditions secondaires. Mm-hmm. Finalement, ben, ils varient d'intensité. On peut avoir un trouble léger, modéré ou sévère.
Et aujourd'hui, on va parler davantage de troubles d'apprentissage de façon plus spécifique, de la dyslexie et de la dysorthographie. On va commencer par la dyslexie.
La dyslexie, ben, c'est un trouble vraiment persistant d'apprentissage de la lecture qui est caractérisé... alors, c'est un trouble spécifique. Les troubles, comme on disait tantôt, des troubles d'apprentissage, c'est de façon générale, mais la dyslexie, c'est spécifique à l'apprentissage de la lecture. Alors, c'est souvent caractérisé par des difficultés aussi dans l'acquisition de la lecture et dans l'automatisation de la lecture. On va voir souvent bien, une lenteur importante, des gens qui vont lire très, très lentement, ils vont lire, ils vont avoir de la difficulté à déchiffrer, ça va être laborieux, ils vont souvent se tromper de mots, ils vont sauter des mots. Alors, ce sont des difficultés qui demandent, qui vont aussi entraîner des difficultés d'attention parce que les personnes qui sont dyslexiques sont toujours en train de fournir des efforts davantage que leurs pairs parce que, comme la lecture n'est pas automatisée, ils mettent beaucoup, beaucoup d'efforts, un petit peu comme quelqu'un qui apprend la première fois. Ben, je vais donner un exemple. Mm-hmm. Si je suis en apprentissage d'une langue seconde, comme l'allemand, c'est sûr que je vais avoir de la... Après un chapitre, je vais être complètement fatiguée. Je vais décrocher, je vais dire « j'en peux plus ». Mais c'est un peu la même chose pour un élève dyslexique ou une personne dyslexique. Il est toujours en surcharge cognitive. Il peut lire, mais il va arriver à une très grande fatigabilité. Et son attention va chuter, puis il va devoir arrêter de lire parce qu'il ne sera plus capable de le faire.
Et il y a aussi l'aspect de l'écriture à ce moment-là.
Oui, l'aspect de l'écriture, évidemment, c'est aussi habituellement les élèves, les jeunes ou les personnes dyslexiques sont aussi dysorthographiques parce que l'apprentissage de la lecture a été difficile et notamment l'écriture encore plus. Donc, c'est les mêmes manifestations, ne se souvient pas comment on écrit un mot, on l'écrit, on inverse des lettres, les sons sont difficiles pour certains. Alors, il y a différentes manifestations de la dysorthographie. Et encore là, ben, comme l'automatisation de l'écriture, la personne cherche toujours comment on écrit les mots, arrive difficilement à écrire la phrase au complet, devient en surcharge cognitive et ne peut pas traduire finalement toute la pensée qu'elle a dans la tête. Mm-hmm. Elle n'arrive pas à traduire par des mots écrits. Elle n'arrive pas à jeter sur papier tout ce qu'elle a réfléchi, toute sa réflexion, sa capacité de réflexion.
Et ce qu'elle n'aurait peut-être pas de problème à dire à l'oral, hein, finalement. Donc, c'est vraiment spécifiquement pour la lecture, pour l'écriture, ces deux troubles d'apprentissage-là. Pour éviter que les jeunes, justement, avec des besoins particuliers, se retrouvent beaucoup en position d'échec, il y a des aides technologiques. Pour pallier à ces troubles d'apprentissage, pour aider justement à réussir tout de même. On parle de quoi spécifiquement?
En fait, une aide à la lecture, c'est une assistance pour supporter l'élève au moyen, par exemple, d'une synthèse vocale. C'est une aide à l'écriture, bien, ça permet à l'élève de réaliser une tâche d'écriture qu'il pourrait difficilement réaliser ou développer sans le support de cette aide technologique. Je dis élève parce que moi, je suis plus dans le domaine scolaire. Mm-hmm. Par contre, ça s'adresse à l'ensemble des gens qui sont dyslexiques et dysorthographiques.
Et il faut vraiment regarder les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces aides-là. Donc, l'adapter, que ce soit au niveau scolaire ou au travail peut-être même de l'individu?
Effectivement, il faut... ce sont... si on parle du niveau scolaire, il y a des conditions à respecter parce que, oui, c'est intéressant. Je peux donner comme exemple, on se sert souvent de la métaphore des lunettes pour illustrer mm-hmm. l'importance des technologies pour ceux qui utilisent ces aides technologiques-là. Les lunettes, bien, permettent de compenser une difficulté marquée à voir, mais en même temps, ils ne permettent pas de mieux voir que les autres. Alors, les technologies aident à réduire l'écart. Mm-hmm. Alors, ils comblent l'écart en lecture, en écriture, puis ainsi, bien, ça offre une meilleure égalité des chances. Dans le secteur jeune, pour répondre de façon plus précise à votre question, dans le secteur jeune au niveau scolaire, cependant, il y a des conditions à respecter. Il faut que le jeune utilise l'outil lors des apprentissages. Il faut qu'il l'utilise aussi pour pouvoir l'utiliser lors des évaluations. L'outil doit aussi, en tout temps, l'outil ne doit pas accomplir la tâche à la place de l'élève. Mm-hmm. Alors, à cet égard, l'outil doit solliciter chez l'élève une réflexion et une prise de décision.
Donc, c'est vraiment aussi un aspect de consultation de l'élève, voir est-ce que ce soit en accord aussi avec son milieu. Et donc, on vise à réduire l'écart et non pas à favoriser, je dis ça entre guillemets, comme on pourrait parfois percevoir, entre autres parce qu'on n'est pas sensible à justement à la situation des personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage. Il nous reste une minute. J'aimerais qu'on parle du congrès annuel qui s'en vient du côté de l'Institut des troubles d'apprentissage.
Effectivement, pour précision, il y a notre 41e congrès « Comprendre et accompagner l'apprenant » aura lieu du 6 au 8 avril 2016. Pour plus d'informations, on peut aller voir sur le site de l'Institut au www.institutta.com où on aura tous les détails. Ça s'adresse autant aux parents, ça s'adresse aux enseignants, ça s'adresse aussi aux professionnels, ça s'adresse à beaucoup de personnes, les gens, même aux médecins. Alors, il y a beaucoup d'ateliers, de conférences. On a des conférenciers qui viennent de l'extérieur aussi, qui viennent des spécialistes.
Donc, c'est pour présenter peut-être des nouvelles aides technologiques, des résultats de recherche, c'est
effectivement, pour présenter quoi? Effectivement, chacun va y trouver son compte. Et que je sois chercheur, que je sois parent, c'est une table commune, c'est où le parent peut côtoyer les enseignants, qui peut côtoyer aussi des directions d'école. On peut côtoyer tous les gens qui sont sensibles et qui sont intéressés par la cause des troubles d'apprentissage.
On le rappelle, c'est 800 000 personnes au Québec qui vivent avec un trouble d'apprentissage. Madeleine Fauteux, vous êtes orthopédagogue, spécialiste en technologie de l'information et personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, c'était Louis-Jean Cormier avec Saint-Michel, tiré de son album Les grandes artères, paru en 2014. On termine notre émission avec une autre chronique, une nouvelle chronique mensuelle à Ça vaut le détour. Cette fois-ci, on découvre le centre de référence du Grand Montréal et je tiens à ajuster en introduction, j'avais dit le centre de référencement du Grand Montréal, mais Madame Pierrette Gagné, la directrice, m'a indiqué qu'il y avait un petit ajustement à faire. Bonjour, Madame Gagné.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Ça fait plaisir.
Tout d'abord, le centre de référence du Grand Montréal, depuis combien de temps ça existe?
Imaginez-vous que ça va faire 60 ans en octobre prochain. Alors, c'est né en 1956. C'était à l'origine un service à l'intérieur du Conseil des œuvres du diocèse de Montréal. Et compte tenu de l'importance de la demande, on a suggéré qu'il soit complètement détaché, devienne autonome. Et en 1969, il s'est fusionné avec son pendant anglophone Information and Referral Center pour devenir un organisme bilingue incorporé avec la même mission d'informer pour aider, c'est-à-dire de guider les personnes vers les ressources sociales et communautaires qui pourraient les aider dans toutes sortes de sphères de leur vie.
Justement, on parle de sphères sociales, économiques. En 60 ans d'activité, on a quand même vu plusieurs changements d'époque. Quels étaient les besoins au départ qui avaient été remarqués et quels sont les besoins maintenant que vous avez plus?
Ce qui est assez frappant, on est en train de préparer une édition spéciale, un livre anniversaire à l'occasion des 60 ans. Et j'étais vraiment frappée de voir à quel point les besoins sont restés les mêmes. Bien sûr, il y a eu une évolution, il y a des besoins plus aigus. Mais tout ce qui tourne autour de la pauvreté, par exemple, ce qu'on appelle chez nous les besoins fondamentaux, que ce soit logement, dépannage alimentaire, meubles, revenus, donc ça reste beaucoup ça. Les besoins aussi liés à la famille, soutien à la famille, violence familiale. Les toxicomanies hein, qui a eu une recrudescence dans les années 70, mais qui sont très présentes. Alors, les besoins ont évolué, les clientèles aussi. Il y a plus de... Avec le vieillissement de la population, bien sûr, il y a plus d'aînés, donc on a plus de besoins qui viennent des personnes aînées. Et avec le maintien à domicile, elles ont besoin de ressources pour venir les aider à la maison. Il y a aussi, avec l'arrivée des personnes immigrantes dans le Grand Montréal... On a aussi des besoins de ce côté-là. C'est pas pour rien qu'on a une ligne info-aide réfugiés qui a vu jour en décembre dernier et qu'on a une ligne spécialisée aussi pour les aînés qui s'appelle Référence aînés pour suivre les demandes croissantes venant de ces clientèles.
Et justement, donc vous aidez vraiment différents types de clientèles. Est-ce qu'on est capable de dresser un portrait des gens qui font affaire avec vous ou qui... Comment est-ce qu'on arrive chez vous?
Bien, en fait, on arrive chez nous, ça peut être, par exemple, à l'occasion d'un changement dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, perte d'emploi, déménagement, perte d'un conjoint, deuil, ou ça peut être aussi les proches d'une famille qui appellent pour demander de l'aide pour leur mère, leur mm-hmm. père, leur conjoint qui a des problèmes de toxicomanie ou de jeu compulsif. Il y a plus de femmes que d'hommes qui appellent chez nous. Ça, je pense que c'est le reflet de ce qu'on observe beaucoup dans les lignes d'aide, les lignes de référence et même les services en général. Mais je pourrais pas mettre un type précis. C'est vraiment, comme les besoins sont très variés, bien, les clientèles sont variées, mais c'est vraiment des gens qui ont des besoins particuliers, soit à une étape de leur vie, soit qui sont en crise ou qui sont fragilisés par une situation qui nous appelle beaucoup.
Comment est-ce que ça se passe une fois qu'on vous appelle ou qu'on vous contacte? Comment est-ce que l'évaluation peut-être des besoins se fait et à ce moment-là, la bonne référence?
Bien, ça, c'est une question vraiment importante que vous posez parce que justement, la différence entre appeler chez nous ou aller sur un site sur Google ou appeler au 411, par exemple, nous, on fait, nos conseillers font une analyse du besoin. Parce que les personnes qui appellent, comme je vous disais, qui sont souvent en crise, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin comme ressource. Ils appellent et ils disent « qui peut m'aider? » Alors, il faut démêler un peu tout ça, essayer de voir quel est leur problème. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une mère monoparentale qui appelle parce qu'elle veut avoir de l'aide pour se trouver un nouvel emploi. Puis on sent qu'elle est en une situation de détresse. On lui demande, « Madame, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos enfants également? » Tout ça. Et là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un besoin de dépannage alimentaire qui va avec ça, un besoin de halte garderie parce que cette personne-là a besoin de répit. Alors, c'est très important la compréhension du besoin. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui appellent avec des multiproblématiques. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que cette analyse-là par nos conseillers, avant de s'assurer de la diriger vers la bonne ou les bonnes ressources, est vraiment importante. C'est une sorte de plan d'intervention, dans le fond, qu'on fait.
Personnalisé en plus. Oui. Est-ce que la situation de handicap est quelque chose qui revient fréquemment chez vous? Donc, on parle de multi-besoins, si on veut, de besoins dans différentes sphères. Est-ce que la situation d'handicap est quelque chose que vous...
Oui, il y a des gens qui appellent pour avoir des ressources pour répondre à leurs différentes limitations et on peut les guider vers des ressources. Il y a aussi au niveau de la santé mentale, on parle d'handicap physique, mais on parle aussi d'handicap intellectuel puis de santé mentale. Mm-hmm. où on se rend compte que des gens qui appellent, qui ont des troubles anxieux, qui souffrent de troubles anxieux et qu'on va diriger vers des groupes d'entraide, on a beaucoup ce genre d'appels-là, c'est assez frappant. C'est intéressant de voir que dans la grande région de Montréal, il y a des bonnes ressources pour répondre à toutes ces personnes.
Comment est-ce que vous survivez comme organisme?
Bien, je pense que... Mais nous, depuis notre création, hein, depuis qu'on est incorporé, on a toujours été financé. On est un organisme de centraide du Grand Montréal qui était avant la campagne des fédérations des œuvres de canadiennes-françaises, l'ancêtre de centraide. Et on est aussi le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux nous donne une contribution. Et on produit des répertoires généraux et spécialisés sur les ressources. Justement, on vient d'en sortir un cette semaine sur les ressources en itinérance. Alors ça, c'est des sources de revenus qui nous viennent. Et c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Et aussi avec des projets spéciaux comme nos lignes spécialisées en drogue, aide et référence et jeux, aide et référence. C'est un service qui nous est demandé de donner par le ministère de la Santé et Services sociaux. La même chose, la ligne info-aide réfugiée, alors que c'est la Ville de Montréal qui nous a demandé d'avoir une ligne de disponible.
Donc, vous êtes parfois même la première ligne d'intervention, si on veut.
Tout à fait.
Vous êtes complémentaire à ce qui est offert par les services de santé et services sociaux.
Oui. Nous, on dit que c'est tous les appels non urgents qui touchent le socio-communautaire. Alors, on est complémentaire aussi avec le 911, où c'est les appels urgents, avec le 311, où c'est les services de la ville. Alors, en travaillant tous ensemble, bien, on arrive à pouvoir rendre service à plus de gens possible.
Si on veut se procurer les ressources, par exemple, comme le guide dont vous venez de parler, qui vient de sortir, ou tout simplement, si on a des questions, si on ne sait pas vers qui se tourner, parce que parfois, je crois qu'il peut y avoir aussi certaines problématiques qu'on oublie et que c'est en discutant avec un professionnel qu'on se rend compte qu'il y en a plus, qu'on pense, ou la première, elle n'était pas là. Comment on vous contacte?
514-527-1375. Sur notre ligne générale d'info-référence et on va pouvoir répondre à tout ça.
Pierrette Gagné, vous êtes directrice du Centre de référence du Grand Montréal. C'était une première chronique mensuelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir fait découvrir la mission de l'organisme.
Merci à vous.
C'est ce qui met fin à notre émission de Ça vaut le détour aujourd'hui. Je remercie mes invités, Mme Pierrette Gagné, Madeleine Fauteux de l'Institut du trouble d'apprentissage, Maître Soudi Bakary de Desroches-Mongeon, avocat. Et on avait commencé l'émission avec Mme Liliane Tremblay, conseillère d'arrondissement Saint-Léonard-Est. Je remercie aussi mon équipe technique avec moi, à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Maurice Bolduc. C'était Maxime Despomerleau pour une nouvelle édition de Ça vaut le détour. À bientôt.